IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise. À écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Entreprendre aujourd'hui, c'est oser, innover et parfois réinventer totalement son métier. Aujourd'hui, mardi 31 mars 2026, dans l'économie en direct, nous allons à la rencontre de parcours inspirants, de l'automobile à l'accompagnement humain, en passant par l'entrepreneuriat engagé et les dynamiques de réseau. Des trajectoires différentes, mais une même énergie, celle de construire, d'avancer et de donner du sens à son activité. Pour commencer cette émission, je vais présenter bien sûr mes invités qui sont Jérôme Brou, fondateur et dirigeant de Courtigo. Bonjour Jérôme.
Bonjour Jacqueline.
Maywen Tardivel, praticienne RESC, fondatrice de Maze Résonance. Bonjour Maywen.
Bonjour Jacqueline.
Béatrice Bellabas, fondatrice et dirigeante de Sociobel. Bonjour Béatrice. Et Jennifer Terrones, fondatrice et dirigeante de Terreau d'entreprise.
Bonjour Jacqueline.
Un jeu de mots qui a dû qui paraissait évident. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Alors, je vous propose de faire un petit tour de table pour vous présenter en quelques mots votre activité, votre parcours. Et puis, on rentrera un petit peu plus en détail chacun à votre tour. Jérôme.
Alors, Jérôme Brou, j'ai bientôt 44 ans, je suis issu du Val-d'Oise, j'ai grandi dans le Val-d'Oise et ça fait bientôt 25 ans que j'agis dans le secteur automobile, dans le département, voilà. Donc j'ai fait, on va dire, toutes mes classes dans la distribution automobile en démarrant jeune stagiaire jusqu'à diriger des concessions automobiles. Et puis il y a un peu plus de 6 ans, j'ai décidé d'un virage dans ma vie, la crise de la quarantaine avant l'heure, et puis voilà, j'ai décidé d'entreprendre. Je viens d'une famille globalement d'entrepreneurs et j'ai toujours eu cette envie.
Ce goût.
Voilà, et il a fallu un peu trouver peut-être une fin d'histoire, entre guillemets, à mon vécu en concession, vouloir me réaligner peut-être dans ma façon de faire du commerce, et puis entrevoir une opportunité d'entreprendre, voilà, avec des ambitions de croissance.
Très bien, voilà. Ben écoutez, un ancien du Garac, hein, je me souviens.
Tout à fait, formé au Garac.
Une belle référence. Merci Jérôme. Maywen, votre parcours, enfin, je vous laisse vous présenter.
Oui, donc Maywen Tardivel, donc je suis praticienne en résonance sous-cutanée dit la RESC.
RESC, pardon.
Ouais, RESC, ouais. C'est le diminutif. Et donc moi, dans mon parcours, en fait, j'ai fait 15 ans à l'hôpital, donc je suis auxiliaire de puériculture de métier. Je travaillais en pédiatrie où je me suis formée, du coup, à la résonance sous-cutanée pour prendre en charge la douleur, le stress et l'anxiété des enfants, mais aussi des parents. Et j'ai pu voir son impact au sein de l'hôpital. Et alors pour le coup, moi, je n'ai pas du tout une âme d'entrepreneuse. Ça a été beaucoup de conviction par rapport à cette méthode. Et j'ai décidé du coup de la faire sortir des murs hospitaliers pour que voilà un plus large public, en tout cas, puisse connaître les bienfaits et puisse y accéder.
Très bien, ben merci. On rentrera plus en détail sur ce qu'est la RESC dans quelques minutes. Béatrice Bellabas, donc Sociobel.
Oui, Béatrice Bellabas, donc je suis fondatrice et gérante de Sociobel, qui est une société commerciale de l'économie sociale et solidaire à Roissy en France. Je suis valdoisienne et l'histoire entrepreneuriale, eh bien, depuis 2007, dans une activité particulière puisque je suis assistante sociale de formation et face à un besoin croissant. Eh bien, nous commercialisons, nous avons monté une équipe, aujourd'hui nous accompagnons les employeurs privés, publics, en intégrant les services des ressources humaines avec des assistantes sociales et des psychologues du travail. Donc c'est l'accompagnement psychosocial des personnes au travail.
Merci Béatrice, si j'ai bien compris, puisqu'on s'est rencontrés le 17 mars, on en parlera, c'est un peu une innovation ce que vous avez fait avec Sociobel.
Oui, c'est une niche en fait.
C'est ça.
Après avoir travaillé en tant qu'assistante sociale dans des grandes entreprises du secteur privé, notamment l'industrie avec Jake Alstom et puis plus tard Alstom, je me suis rendu compte très tôt qu'il y avait un besoin d'écoute, d'accompagnement que ne pouvaient pas toujours assumer les services transverses, hein, que ce soit direction, ressources humaines ou partenaires sociaux. Donc il y avait besoin de professionnels de l'accompagnement en interne et c'est de plus en plus vrai. Voilà.
Très bien, merci. On rentrera aussi dans le détail tout à l'heure. Jennifer.
Alors moi je suis Jennifer Terronès, j'ai 47 ans, j'ai démarré mon parcours en voulant devenir criminologue. Il y a très très longtemps et j'ai donc été à la fac sur les bancs de Cergy, malheureusement j'étais trop petite, donc du coup j'ai pas pu passer le concours de police.
Ah,
donc
oui.
J'ai dû trouver autre chose qui m'animait à l'époque et donc j'ai fait 25 ans dans la communication et le marketing. J'ai eu ma propre agence, j'ai été fondatrice d'une agence qui s'appelait Comme Tigo. Exactement, pour la résonance, c'est assez drôle, pour la résonance effectivement avec mon identité latine et espagnole. Et puis il y a 4 ans de ça, j'ai décidé effectivement de fonder et de transmettre en fait mon expérience au bénéfice des dirigeants d'entreprise et des créateurs de projets à travers effectivement la structuration d'activités au bénéfice du développement commercial pour qu'il soit durable, assez serein et confortable pour chaque dirigeant.
Très bien. Voilà. Donc je comprends que vous êtes tous vous allez pouvoir échanger, je suis sûre, à la fin de l'émission entre vous. Merci Jennifer. Merci. Alors je tiens à préciser aussi que vous êtes là parce que vous faites partie du réseau Entreprendre
tout
95
à fait.
Dont nous sommes partenaires et voilà, je tenais à j'ai encore jamais reçu à part Marie-France Vautier bien sûr, mais voilà, je suis très contente
que vous soyez. C'est un plaisir d'être là.
Eh bien, bienvenue et merci d'être les invités de l'économie en direct sur IDFM Radio.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Et on commence avec vous, Jérôme. Donc, Jérôme, vous nous l'avez dit, ce métier de... vous vous êtes dirigé vers le métier de courtier automobile parce que c'était votre formation. Vous aviez aussi senti qu'il y avait un réel besoin dans ce domaine ?
Oui, comme je disais, j'avais envie d'entreprendre. J'étais peut-être arrivé un petit peu au bout de mon histoire avec une belle carrière pendant une grosse quinzaine d'années en fait où j'avais gravi les échelons et surtout je rencontrais un décalage entre ma vision de faire du commerce et les objectifs que j'avais apportés pour le compte de groupes de distribution qui eux-mêmes subissaient des objectifs contraignants de la part des constructeurs automobiles. Il faut bien savoir que l'automobile, on est dans un secteur quand même qui est chahuté, avec une transition énergétique plutôt et technologique un peu à marche forcée. Ça engendre beaucoup de biais dans le commerce in fine sur le terrain. Et j'étais de moins en moins aligné en fait avec les objectifs qu'on me demandait et la façon dont j'avais envie de faire le commerce. Étant enfant de commerçant, ayant une clientèle fidèle, j'étais plus en phase. Et à un moment, être plus en phase, mais quand vous êtes père de famille et avec une situation confortable, c'est faut un petit déclencheur
Hein.
Et le déclencheur, ça a été de me dire j'ai un constat, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de faire du commerce différemment. Et j'y vois une opportunité de business, de développement, parce que je me voyais pas faire un virage dans ma vie et être entre guillemets en recul dans mes ambitions. Et c'est là que j'ai commencé à dire finalement il y a des courtiers dans plein de secteurs d'activité, dans l'assurance, dans les prêts immobiliers, etc. Et on connaît pas vraiment ce terme de courtier dans l'automobile. D'où l'idée de créer ce métier de courtier. Enfin. Créer ce métier, c'est peut-être un peu présomptueux,
mais en tout cas
de le développer et voilà. Et puis le nom est arrivé, Courtigo. On a enclenché comme ça.
Donc un métier à la fois de passion et d'opportunité.
Oui.
On peut dire.
Ouais.
Oui. Comme je disais, vous avez fait une formation au garage, donc c'est que vous avez toujours été attiré par le domaine de la voiture. de l'automobile.
Alors oui, l'un des paradoxes que je porte et dont je me cache jamais, c'est que ma vraie passion, c'est pas l'automobile, c'est peut-être paradoxal, c'est plutôt le commerce et c'est plutôt les clients.
D'accord.
À titre personnel, je suis pas vraiment un passionné d'automobile. Mm-hmm. Les week-ends, j'ai pas spécialement envie de parler automobile. Je suis tombé dans la distribution automobile à un moment où je me cherchais, j'étais un petit peu rebelle face à l'école, etc.
Oui,
et par contre, élevé dans un milieu entrepreneurial et où la valeur travail était très importante. Donc ça, je l'ai eu depuis très jeune. Et en fait, je me retrouvais pas tout à fait dans le système scolaire. Avec quelques années après, j'aurais plutôt voulu faire une école de commerce, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, jeune, à l'adolescence, j'étais pas dans cette dynamique-là. J'ai fait le garage, qui m'a apporté
la rigueur. Pour les auditrices et auditeurs, ce qu'est le garage.
Le garage étant l'école dédiée aux métiers de l'automobile, du cycle, enfin tout ce qui tourne autour des métiers de l'automobile, les poids lourds, le cycle, etc. C'est une école qui est basée à Argenteuil, qui est une référence dans le domaine, et c'est une école qui appartient à la profession en fait automobile au sens large. Donc ces administrateurs sont issus des différentes branches.
Qui est réputée comme étant une excellente école, et je crois que tous les constructeurs, enfin tous les concessionnaires, essaient de récupérer les étudiants.
Oui, ça reste. Je vais peut-être pas être très objectif en étant ancien élève et étant assez proche toujours du Garac, mais c'est quand même connu pour être la référence dans notre domaine d'activité. Ouais. Et donc c'est une école qui m'a apporté aussi la rigueur, et voilà. Donc pour revenir à ce côté passion et opportunité, moi j'avais une vraie passion de la relation client, du commerce, et ça je l'ai toujours eu. L'automobile est mon secteur d'activité, je m'estime très compétent et en plein dans mon secteur d'activité, mais pas passionné par l'objet de la voiture, finalement. Je le vois comme un métier.
Vous
comme
regardez une... pas les grands prix
Non, je regarde pas les grands prix. On parle de Formule 1, je regarde pas. J'ai plein d'autres passions, l'objet de la voiture en elle-même n'en est pas une, et c'est plutôt la relation client, l'opportunité
business, le côté commercial qui vous plaît.
Le côté développer une entreprise. Et l'opportunité, je l'ai trouvée en créant un petit peu ma niche dans mon secteur d'activité.
Alors, est-ce qu'on gagne vraiment du temps en passant par un courtier ?
Je pense que oui. Clairement, on a quand même pas mal de clients qui aujourd'hui pourraient en témoigner. L'idée, pour rentrer dans le fond, c'est qu'on récupère des clients qui ont un projet automobile, qui ont un besoin clairement détaillé ou pas. On est face à beaucoup de clients, puisqu'on travaille aussi bien avec des particuliers que des entreprises. On a beaucoup de clients qui ne savent plus bien ce qu'ils doivent prendre. Je parle de technologie, électrique, hybride rechargeable, hybride non rechargeable, thermique. On entend beaucoup de choses, des choses vraies, des choses moins vraies. Donc on accompagne déjà ces clients à clarifier le projet, à remettre les éléments concrets en face. On part souvent d'un constat, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution générale, il n'y a pas de solution idéale, il y a des solutions plus adaptées en fonction d'un usage. Et ça porte sur le choix de la motorisation ou de la technologie, ça porte sur le mode d'acquisition, l'achat, la location longue durée, et toutes les techniques qui existent. Et puis de s'orienter vers le véhicule neuf, le véhicule d'occasion. Donc oui, je pense qu'ils gagnent beaucoup de temps à nous consulter, parce qu'on va venir un petit peu clarifier le projet, mettre en place avec nos clients un cahier des charges complet, et puis après on va engager les recherches sur l'ensemble du marché pour le compte de nos clients.
C'est ça, vous allez accompagner, le client vient vous voir en disant je sais pas trop ce qu'il me faut compte tenu de ma flotte ou même en tant que particulier. Et comme le marché automobile évolue beaucoup aujourd'hui, est-ce que vous sentez une inquiétude chez les acheteurs en ce moment ?
Alors oui, il y a une inquiétude, et il y a surtout de l'attentisme. Il faut savoir que depuis le Covid, le marché automobile sur le véhicule neuf a perdu à peu près 25% de son volume. C'est quand même pas rien. Et on a beaucoup d'attentisme, d'interrogation, de réflexion. Ce qui fait mal sur le marché B2B, c'est les dernières lois fiscales autour de l'avantage en nature. Le véhicule en entreprise est très très fiscalisé en France. Il y a plusieurs sujets derrière la fiscalité automobile, on ne va pas le détailler, mais le dernier coup de grâce un petit peu, c'est en février 2025, le nouveau calcul. Alors il y a une volonté des pouvoirs publics d'inciter à aller vers le véhicule électrique, fiscalement.
Bien sûr.
Mais il y a surtout... effectivement des coups de butoir fiscaux autour de la voiture qui amène à poser des questions.
Alors moi j'avais eu le plaisir de vous accueillir il y a 2 ans déjà, c'est pas vite, c'était pour le salon Effervescence. Vous étiez venu avec Philippe Rouleau, maire d'Herblay,
et un autre Philippe, avec Philippe Écran.
Et Philippe Écran, oui, bien sûr, oui, bien sûr, le fondateur de Effervescence. Et aujourd'hui, donc, vous venez nous voir parce que vous avez décidé de vous lancer dans la franchise de votre propre enseigne. Donc, pourquoi ce choix ?
Tout à fait. Donc, 2026, nouvelle étape. Courtigo a été fondé il y a 6 ans et demi. Pourquoi le choix de se développer en franchise ? Tout simplement, parce que je le disais, je pense qu'on a une approche, une façon de faire qui est quand même innovante dans notre secteur d'activité. On a une belle dynamique. Aujourd'hui, on a un développement qui est... on a une belle trajectoire, tout simplement. Je pense que ça peut être dupliqué, clairement. J'ai aussi un choix personnel. Ça me plairait d'accompagner
d'autres entrepreneurs,
voilà, oui. Qui cherchent un petit peu un climat pour entreprendre. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'y vois une opportunité business, chef d'entreprise, de développer un réseau, oui. Mais aussi un épanouissement personnel. Et ça fait quelques années qu'aujourd'hui je fais des choix sur ces deux critères, toujours un côté très réaliste, entrepreneur, chef d'entreprise, mais aussi un côté personnel d'épanouissement dans ce que je fais. Voilà.
Alors moi dans cette émission je reçois beaucoup de franchisés, mais j'ai encore jamais reçu en tout cas de franchiseurs à votre niveau, puisque bon, c'est quand même c'est une démarche qui est importante quand même de se lancer dans ce, en tant que franchiseur.
Alors c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête depuis plusieurs années. C'est quelque chose que je travaille activement depuis plus d'un an et demi. J'ai fait le choix d'être accompagné par un cabinet qui est spécialisé en développement en franchise. Le monde de la franchise est très normé, très réglementé, donc je suis accompagné par
Rien laissé au hasard.
Non, il y a pas de hasard effectivement dans ce domaine-là. Il y a quand même des engagements qui sont forts. Et en fait, ça fait plus d'une grosse année en fait qu'on travaille sur le projet. On est maintenant prêt et on a lancé il y a quelques jours, semaines les campagnes de recrutement et les campagnes de communication. En une dizaine de jours de campagne pour l'instant Meta sur les réseaux sociaux, on a reçu une quarantaine de leads, donc de personnes intéressées par le concept. Et voilà, alors je suis un néo-franchiseur, un tout jeune, débutant, et ça, j'en ai bien conscience. Beaucoup me demandent alors comment ça démarre, et il va falloir du temps.
Bien sûr. Non, mais déjà 40 candidatures, c'est plutôt une belle.
On a quand même des convictions bon dans ce développement de la franchise. On a démarré par un audit en fait, et donc avec ce cabinet, on regardait si le domaine d'activité était quand même suffisamment porteur.
Oui, vous avez fait une étude
de marché. Si le concept était, et en fait les voyants étaient au vert, donc on s'est lancé. On sait que l'automobile reste quand même un sujet passion. C'est un secteur d'activité qui attire encore, même si le marché est pas simple. Donc voilà, donc je suis assez confiant, mais j'ai en même temps des ambitions très très raisonnables pour le moment. Je suis pas du tout dans une course aux chiffres à nommer des franchisés. Je trouve les bonnes personnes.
Quoi qu'il en coûte.
Je suis pas du tout dans cette démarche là parce que ça va quand même être un virage important. Il faut confier le nom de sa boîte, son concept, l'image de marque. On a aujourd'hui de 130 ou 240 avis Google 5 étoiles. Enfin, il y a tout un environnement où je veux m'assurer effectivement d'accompagner des jeunes créateurs, mais qui soient alignés en termes de valeurs.
Merci Jérôme. Je vous propose qu'on fasse une pause. On revient juste après avoir écouté Manuel Moire et son titre Beau Malheur.
Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur, tu me dis que rien n'efface, ni la craie, ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ce qui pâte pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher, bien avant d'être apaisé. Il m'a fallu la peur pour être rassuré, et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et voilà, aujourd'hui j'accueille Jérôme Brou, Maywen Tardivel, Béatrice Bellabas et Jennifer Terrones. Nous étions en pleine interview avec Jérôme sur son désir de devenir franchiseur. Béatrice, vous avez noté des réflexions à faire à Jérôme, donc je vous laisse nous les dire au micro.
Oui, effectivement, bravo, surtout sur un secteur aussi concurrentiel, notamment sur les voitures asiatiques, chinoises, particulièrement, qu'on voit de plus en plus dans les rues. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ces nouveaux arrivants sur le marché national ?
On se positionne de manière très très claire sur le sujet. On se positionne en tant que courtier, donc on est clairement pour défendre les intérêts de nos clients. Voilà, l'arrivée des marques chinoises sur le marché européen et français, on l'accueille avec pragmatisme, quoi. On échange
mais
avec ces marques-là.
Mais vous pouvez pas l'ignorer.
On peut pas l'ignorer. Mmh. Et puis je me refuse d'une manière générale à être pour un parti pris. trop souvent j'entends t'es pro électrique, t'es anti électrique. Non, je peux pas être pro ou anti électrique. Ça dépend des usages, ça dépend des besoins. Chaque cas unique. Et ben là, c'est pareil. Je peux pas être ni pro voiture électrique, voiture chinoise ou anti voiture chinoise. C'est pas possible. Ces marques-là arrivent. On les intègre dans nos réflexions pour nos clients. Et voilà, de manière très très concrète. Voilà.
Oui, ça fait partie du jeu aujourd'hui, donc il faut jouer avec.
Elles font partie du marché, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut parler finance? Parce que se lancer en tant que franchiseur, ça demande quand même, je pense, des fonds, ou pas, dites-nous.
Alors,
des fonds d'investissement.
Alors, en tant que franchiseur,
oui.
Aujourd'hui, je possède 100% de mon capital. J'ai pas prévu que ça change.
Non, mais je veux dire, comment ça va se passer quand vous allez vous trouver le candidat idéal pour votre première franchise?
Aujourd'hui, les objectifs sont très raisonnables. Hein. J'aspire à trouver deux franchisés sur l'année 2026.
D'accord.
On a la chance de se structurer, nous, Courtigo, Pierre Lay, et j'ai la chance d'avoir une équipe solide en qui j'ai confiance. Donc le rôle, c'est que je prenne un petit peu de recul sur le quotidien pour justement demain piloter une structure qui me fait vivre et qui doit rester performante, et d'accompagner des futurs franchisés, des entrepreneurs qui vont se lancer, qui vont me faire confiance. Donc voilà, il va falloir que je répartisse mon temps entre le pilotage d'une structure qui fonctionne et dans laquelle j'ai une équipe qui connaît mes attentes, et puis demain des futurs porteurs de projets que je vais devoir mettre sur la voie de la réussite, quoi.
Et alors là, si des personnes nous écoutent et ont envie de faire cette franchise avec vous, quels doivent être leurs profils, qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Il est évident que pour démarrer, je cible plutôt des profils qui ont une expérience du secteur automobile, dans la partie commerce, et qui auraient envie, comme je l'ai fait il y a quelques années, de changer d'angle de vision de la façon de faire leur métier, en fait, de sortir un petit peu de cette posture peut-être contraignante en concession et de représenter qu'une seule marque avec des contraintes et des objectifs ciblés, et d'aller vers un champ des possibles très large et d'avoir des besoins clients et d'y répondre et d'apporter leur expérience et leurs compétences, quoi. Donc c'est plutôt des profils de ce type là après, par principe je n'exclus rien, mais en tout cas il faut des profils entre entrepreneurs et vraiment tourner commerce,
qui ait le goût du commerce, comme vous l'avez vous-même. Plutôt Île-de-France ou toute la France?
La logique voudrait qu'on se développe un peu sur l'Île-de-France pour des questions pratiques. Néanmoins, ce qui m'animera, c'est la qualité des profils qui vont nous contacter et avec qui on se projette. Donc, je m'interdis pas que ça puisse être des gens qui soient en province.
Et donc, parmi les 40 contacts que vous avez eus, vous avez commencé la sélection ou pas encore?
Alors. Oui, il s'avère, je parlais de l'accompagnement d'un cabinet, d'une entreprise qui nous accompagne sur le développement franchise, et ils nous accompagnent aussi sur le recrutement. Donc j'ai quelqu'un qui est expert dans le monde de la franchise, pas spécialement lié à l'automobile, mais expert dans le monde de la franchise, qui qualifie en fait ses contacts pour s'assurer de l'adéquation entre leurs projets, le nôtre, les valeurs de Courtigo, de l'enseigne, l'aspect financier, entrepreneurial, etc. Donc moi je les reçois que dans un second temps. Il y a un premier filtre qui est opéré par le cabinet Framboise qui nous accompagne.
D'accord, super. Alors Jérôme, vos besoins, c'est trouver des candidats et puis pouvoir donner vie à cette nouvelle activité.
Tout à fait. Alors la première des activités restant notre rôle dans le Val d'Oise, on est un acteur on continue de grandir dans l'accompagnement de nos clients sur leurs projets automobiles personnels et professionnels dans le Val d'Oise. Donc ça reste quand même le premier moteur, et j'ai ce second projet effectivement qui est de rencontrer des gens qui ont envie d'entreprendre dans le secteur automobile et qui partageraient nos valeurs, et voilà, donc ça va devenir la deuxième activité.
Et donc quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut entreprendre dans votre secteur?
De nous contacter, tout simplement.
Ben voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour vous contacter?
Oh ben, je suis assez facilement trouvable sur les réseaux sociaux. On a un site internet. On a
donc, Courtigo, Jérôme Brou.
Je pense que c'est pas trop compliqué de me trouver et de me contacter, je crois.
Merci infiniment, Jérôme, pour merci, cet éclairage. Jacqueline. Et puis, tous mes voeux, hein, de belles réussites pour cette nouvelle aventure. On va vous suivre pour voir l'évolution.
Et promis, je reviendrai à la nomination du premier franchisé.
Je reviendrai avec lui. Merci. Plaisir. Merci. Allez, on fait une nouvelle pause avec Kyo qui nous accompagne avec son titre Le Chemin.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Une émission dans laquelle je reçois ce matin Jérôme Brou, fondateur et dirigeant de Courtigo, Maywen Tardivel, praticienne RESC, fondatrice de May Résonance, Béatrice Bellabas, fondatrice et dirigeante de Sociobel, et Jennifer Terrones, fondatrice et dirigeante de Terro d'entreprise. Alors Maywen, nous nous sommes croisés lors d'un apéro pitch chez Initiative 95, et puis j'ai appris avant que qu'on démarre l'émission que vous étiez en relation avec Béatrice Bellabas. Donc j'adore, moi, quand mes invités se connaissent. Donc vous êtes spécialiste en résonance sous-cutanée qui se prénomme RESC. Donc expliquez-nous exactement ce qu'est la RESC.
Alors la RESC, c'est une méthode alternative, complémentaire du coup à la médecine conventionnelle, donc inspirée de la médecine chinoise avec un parallèle sur l'océanographie. En fait, le concepteur de la RESC, qui est kinésithérapeute de métier, a cherché au fur et à mesure de son parcours professionnel à soulager les gens sans avoir de gestes invasifs. Mm-hmm. Donc il a été donc kiné, ensuite il a été acupuncteur où il s'est dit que c'était mieux, et puis finalement il a cherché à approfondir un petit peu plus ses compétences. Et comme notre corps est composé à plus de 70% de liquide, il a fait un parallèle en se disant que quand on touche une surface d'eau, il y a des ondes qu'on voit en surface, mais aussi une onde qui va en profondeur, une onde de son, comme quand on est, vous voyez, dans la piscine par exemple, si on s'immerge dans l'eau, même s'il y a un caillou qui tombe de l'autre côté, finalement on a presque l'impression que c'est à côté de nous. Donc il a fait tout son travail en fait sur ces ondes de son, sur les trajets du coup des méridiens de la médecine chinoise.
D'accord.
Voilà, donc une méthode qui n'est dispensée qu'aux professionnels de santé. L'école de la RESC, du coup, forme les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les psychomotes, les psychologues, etc. Et principalement dans le milieu hospitalier. Donc moi j'ai été formée, je travaillais donc pendant 15 ans à l'hôpital de Gonesse en pédiatrie où dès mon arrivée j'ai toujours été sensibilisée à la prise en charge de la douleur et je me suis vite rendu compte que les enfants ont leur corps qui parle avant les mots. Donc je me suis formée sur la prise en charge de la douleur de manière générale. Je me suis formée en hypnoanalgésie. J'ai fait partie du comité de lutte contre la douleur. Et à un moment donné, on s'est beaucoup questionné. On avait remarqué justement que les enfants étaient beaucoup sur l'aspect corporel. Donc on a cherché une autre formation, puisqu'on avait notamment un type d'enfant avec une certaine maladie qui ne répondait pas à la thérapeutique. Avec le CLUD, du coup, nous avons fait des recherches. Étant donné que la RESC ne forme que les professionnels de santé, on a pu l'intégrer du coup à l'hôpital où je me suis formée à partir de 2018 jusque du coup j'ai quitté l'hôpital en 2024. Donc je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai pas le mindset entrepreneur puisque je suis en effet soignante avec la blouse blanche, que mon but initial c'était pas de quitter l'hôpital, mais nous avons avec mon encadrement essayé de détacher
de démocratiser un petit peu cette méthode.
Ouais, de démocratiser en fait, on a
essayé de faire sortir de l'hôpital.
Voilà, mais initialement, c'était vraiment, je voulais déjà détacher un temps sur l'hôpital pour pouvoir justement répondre à la demande qui était présente. Ça s'est pas fait, on a fait 3 ans d'appel à projet, etc. Ça ne s'est pas fait. Et à un moment donné, je me suis dit, si ça se fait pas à l'hôpital, ça se fera en dehors. Mmh. Donc j'ai décidé du coup de sortir du milieu hospitalier pour créer donc mon entreprise et démocratiser en effet cette méthode où j'ai pu voir son impact au sein de l'hôpital, au sein des enfants, au sein des parents, mais aussi de mes collègues. Puisque l'aspect physique et psychique chez les soignants est quand même aussi très difficile et j'ai pu voir tous les bienfaits.
Et alors, quand on vient vous voir, c'est pour quel type de besoin ? Les adultes, par exemple.
Les adultes, j'ai des adultes qui viennent pour des douleurs, qu'elles soient chroniques ou qu'elles soient aiguës. Par exemple, douleurs cervicales, des lombalgies, je peux avoir des tendinites, des migraines, par exemple. Mais je peux avoir aussi une patientèle qui vient pour des problèmes de sommeil, entre autres, pour du stress, de l'anxiété. Finalement... La RESC, moi, m'a appris, en plus de toutes mes compétences de soignante, que finalement, notre corps nous parle au quotidien. Mm-hmm. C'est notre boussole. Et on l'écoute pas souvent, voire pas du tout.
Et on faut vraiment attendre d'avoir d'être coincé.
On a tendance à toujours mettre dans le sac à dos derrière.
Et puis, ça ira mieux demain.
Ça ira mieux demain, tout à fait. Sauf que le corps, il murmure, et puis à un moment donné, il crie. Et souvent, quand il crie, c'est vraiment la sonnette d'alarme en mode là, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on est beaucoup finalement dans cette culture du curatif, on attend d'avoir vraiment d'être au plus mal pour se prendre en charge, alors que finalement si déjà on était un peu plus sensibilisé à cette écoute corporelle, on pourrait prévenir justement pour ne pas aller aussi mal.
Oui, au clash.
Voilà.
Vous accompagnez donc les enfants autrement face aux émotions, notamment.
Tout à fait.
Puisque vous pouvez nous donner un exemple.
Bah, vous voyez, on se rend compte quand même que toutes les émotions, elles passent par notre corps avant finalement de les mentaliser. On est dans une société où on mentalise beaucoup, mais on a beaucoup de choses qui passent par le corps. Et c'est aussi sensibiliser donc les parents au fait que un enfant, par exemple, qui dit qu'il a mal au ventre pour aller à l'école, c'est pas du chiqué, c'est qu'il y a sûrement une problématique derrière, sauf qu'il n'est pas en capacité de pouvoir lui exprimer le pourquoi du comment. C'est une émotion qu'il a. Derrière le stress, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de l'anxiété. Il y a voilà plusieurs facteurs derrière, mais c'est pas du chiqué. C'est juste que bah, lui, il est pas en capacité de pouvoir expliquer, de pouvoir exprimer finalement ça. Déjà nous adultes, c'est pas toujours simple. Je veux dire quand on a du stress, des fois on sait pas forcément le pourquoi du comment. Donc on demande beaucoup aux enfants, alors que même nous en tant qu'adultes, on n'est pas toujours très performants sur la gestion des émotions.
Alors donc, si vous recevez un enfant comme ça qui se plaint d'avoir mal au ventre, c'est quoi
Coup, moi je vais faire donc de la RESC, hein, je vais aller vraiment écouter. C'est ce que je dis, moi j'écoute le corps. Lui, le corps, il sait. Donc voilà, je l'écoute avec mes mains, où je vais les apposer du coup sur différents points d'acupuncture pour soulager du coup ces petits maux, en fait ces petits blocages. Pour vous imaginer, c'est un petit peu comme si donc sur les méridiens, c'est comme si on avait des rivières d'énergie, et quand on vit une émotion, bah il y a un tronc d'arbre qui va sur sur cette petite rivière, et puis bah du coup le tronc d'arbre donne un amas de feuilles et de cailloux, etc. Et en fait,
il y a un blocage. D'accord.
Le but c'est d'aller finalement nettoyer un petit peu,
enlever les feuilles,
enlever les cailloux, enlever le tronc d'arbre, pour essayer d'apaiser du coup, comme si bah cette petite rivière qui s'était peut-être transformée en torrent, on va essayer d'avoir un petit canal.
Ouais, très bien. Ouais, c'est bien. C'est une belle image pour définir votre pratique. Qu'est-ce qui vous touche dans le plus dans votre pratique?
C'est déjà de voir l'impact qu'elle peut avoir. Ça m'a permis aussi de je suis soignante, donc j'ai toujours été animée, enfin je suis à l'écoute des patients. J'aime en effet cette prise en charge, etc. Mais ces dernières années avec l'hôpital, du coup, il fallait toujours quand même faire plus vite, plus court. T'as pas le temps de rentrer dans la chambre.
Jugulaire.
Il faut déjà ressortir. Voilà. Là, je prends le temps. Je prends le temps avec les gens. Et je pense qu'on est dans une société où on a besoin. On a besoin d'être écouté. On a besoin de ralentir. On va toujours plus vite, toujours plus loin. Et, pour moi, c'est un petit peu, ce sas, d'apaisement. D'ailleurs, la plupart, un des mots qui ressort le plus après la séance, c'est je me sens apaisée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et j'ai pas envie de faire du à la chaîne.
Oui, de l'abattage.
Je pense qu'il faut remettre l'humain au cœur de nos métiers.
Mais Wen, je vous propose qu'on marque une pause à nouveau. On se retrouve tout de suite après le duo Pascal Obispo et Icard qui chante Viens, et on verra quels sont vos besoins professionnellement. Merci.
Viens comme tu veux, en avion, en courant, en marchant, dans un jour, une heure ou maintenant. Viens comme tu es, avec ou sans accent, étranger, sans frontières, sans drapeau libre en frère. Viens sans amour, tendre ami, toi l'amoureux de la vie, avec tes qualités, tes défauts aussi. Viens, et peu importe ton genre, le ciel saura bien te comprendre sans te juger. Viens tout recommencer. Viens sans raison, peu importe la saison, au soleil, sous la pluie, à l'abri des intempéries. Viens te chauffer, te blottir, sans aucun projet d'avenir, sans en rougir, oui viens sans réfléchir. Viens si t'as mal, si t'as peur, quand t'es seul comme un chien abandonné, ça va te faire du bien. Viens,
chien, sans pudeur, sans penser au passé, en passant ou pour rester, oui viens sans hésiter. Allez viens. Trophée, ni victoire, sans superbe et sans gloire, sans lumière, le cœur en bandoulière. Viens sans guitare, sans piano, ici et à tout ce qu'il te faut. Tu verras, demain tout changera. Viens, héritier, au mendiant, main derrière, l'autre devant, sans croissant, sans les fleurs, sans l'argent. Viens, la nuit au soleil levant, viens quand tu seras pas bien dedans. Mon ami, tu seras toujours chez toi ici. Allez, viens. Mon ami, tu seras toujours chez toi ici. Allez, viens.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Merci d'être toujours avec nous sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et donc, je suis en interview avec Maywenn Tardivelle, praticienne à RESC. Alors, Maywenn, je l'ai dit en préambule, vous connaissez Béatrice Bellabas. Comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux?
Alors, moi, j'ai été accompagnée avec Initiative, où j'ai fait le programme Émergence. Et à la suite, du coup, de ce programme, on avait le droit d'avoir un mentorat. Donc, j'ai demandé, d'avoir un mentor. Béatrice Bellabas étant mentor chez Initiative, ça me paraissait presque une évidence au vu de son parcours et de l'aspect humain, du coup, derrière ses missions, d'être mentorée du coup par Béatrice.
Béatrice, votre témoignage?
C'est ça, je me rappelle, jury lors du programme Émergence, et Maëwen a présenté son activité que je connaissais pas du tout. J'ai trouvé que ça avait du sens, et puis ensuite le temps est un petit peu passé, elle a travaillé, puis elle est revenue donc sur le projet, puis elle est revenue vers moi, notamment pour faire connaître son activité plutôt sur un modèle B2B. Savoir ce qu'elle pouvait proposer aux entreprises, comment ça pouvait s'intégrer sur de la prévention. Donc voilà le travail qu'on a mené ensemble, et puis surtout d'aller vers un business model, un modèle d'activité qui puisse être aussi rémunérateur pour continuer à se développer, à faire connaître ses talents. Voilà.
Merci Béatrice. Alors Maywenn, justement, est-ce que c'est rémunérateur aujourd'hui, votre activité?
Je suis encore en développement, donc d'après...
Vous sentez que quand même ça prend?
D'après les accompagnements que je peux faire, on me dit que c'est quand même plutôt bien sur une méthode qui n'est pas connue. Maintenant, j'ai beaucoup de chance aussi, je fais des belles rencontres sur mon parcours, il faut le dire. À l'hôpital, j'avais ce côté pluri-professionnel qui, moi, m'animait. J'ai aussi cherché, finalement, à le développer à l'extérieur. Mon but, c'est pas de travailler seul, c'est de travailler, justement, en lien. Je pense que c'est ce qui permettra aussi, de se développer tous et de mettre, encore une fois, l'humain au cœur, de notre société. Donc je fais pas mal de voilà de partenariats avec avec des médecins, avec des pédiatres, avec des hypnothérapeutes, des sophrologues, etc. Mmh. Je pense qu'on est vraiment tous complémentaires. Et voilà, mon but c'est aussi de développer, donc au-delà de la patientèle vraiment particulière, c'est de développer aussi, comme disait Béatrice, le B2B, donc notamment d'intégrer du coup la RESC dans les entreprises, mais aussi dans les structures comme les mairies, les centres sociaux, et de pouvoir rendre cette technique accessible aussi à un plus large public et à des personnes qui ne pourraient pas forcément venir en cabinet.
Jérôme, en tant qu'homme du groupe, là, qu'est-ce que vous pensez de cette quand on entend Maywen?
Bah, j'aurais un paquet de douleurs à faire traiter.
Bah, vous me connaissez maintenant.
Non, plus sérieusement, c'est toujours intéressant de voir des nouvelles méthodes. Après, en tant que représentant masculin aujourd'hui, et pas très sérieux sur. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, Jacqueline, sur le suivi, sur les douleurs, sur lequel on cherche pas à comprendre, on se dit ça ira mieux demain, ou on avale un doliprane. Je me retrouve complètement dans ce genre de stratégie. Après, ce qui est difficile, c'est il y a beaucoup d'offres aujourd'hui, et à quel moment on se tourne vers qui, quoi. Comment on fait le tri, quoi. Faudrait presque des courtiers pour nous accompagner à choisir la bonne discipline.
Une nouvelle idée de partage, peut-être un projet à aller développer.
Voilà, c'est le mot de la fin de Jérôme sur ce sujet. Maywen, donc vous, pour vous contacter aujourd'hui, que faut-il faire?
Bah, vous tapez My Résonance, pareil, sur Internet. Vous pourrez, vous me trouverez. Il y a mon mail, j'ai un site de réservation, mon numéro de téléphone, voilà.
C'est ça. Bah, écoutez, j'espère que nos auditrices auditeurs vont le faire, parce que votre méthode semble vraiment, elle est très séduisante. Hein, il faut, quand on prend rendez-vous, vous donnez des rendez-vous rapidement, parce que justement, quand il faut soigner le mal rapidement.
Oui, généralement, j'arrive en tout cas à garder des créneaux en plus d'urgence.
On vient plutôt chez vous, répondre. C'est vous qui vous déplacez.
Plutôt au cabinet, tout
d'accord.
À fait.
Mm-hmm. Voilà. Très bien.
Et bon. Comme je dis toujours, le seul risque que vous prenez à l'essayer, c'est de l'adopter.
C'est ça. Voilà. Très bien. Bah, une belle formule. Merci infiniment, Maywen. Et puis, pareil, comme pour Jérôme, beaucoup de réussite pour votre activité.
Merci beaucoup.
Allez, maintenant, on va poursuivre avec Renan Luce et Les Voisines.
Dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pliée. Chaleur dentelle, au vent sur les balcons, c'est un peu toi qui danse, quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge, plus de lèche, vitrine assez cache, poitrine que je séchais. Une heure environ, tu choisiras le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, concurrence déloyale de ton chauffage central. Une buée danse interrompt ma transe, puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade, une maison de retraite construite devant ma fenêtre. Sur un fil par centaines, sèche d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission dans laquelle je reçois aujourd'hui Jérôme Brou, fondateur et dirigeant de Courtigo, Maïwenn Tardivel, praticienne RESC, fondatrice de My Résonance, Béatrice Bellabas, fondatrice et dirigeante de Sociobel, et Jennifer Théronès, fondatrice et dirigeante de Terreau d'entreprise. Une émission très riche et voilà, il faut que j'arrive à donner quand même la parole à tout le monde. Béatrice, donc Bellabas, fondatrice de Sociobel. Déjà, pouvez-vous nous présenter Sociobel et sa mission?
Sociobel, c'est une société commerciale de l'économie sociale et solidaire avec un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous sommes situés à Roissy, en France, en plein cœur au village, mais aussi en plein cœur de la plateforme aéroportuaire. Sociobel, aujourd'hui, c'est une vingtaine de collaborateurs, assistantes sociales et assistants de services sociaux diplômés d'État. C'est un métier très féminin, donc, mais je le mets quand même. Il y a aussi des hommes. Psychologues du travail. Et nous avons une continuité de service également sur les territoires ultramarins, puisque nos clients qui sont des employeurs ont leur siège en métropole, mais ont aussi des établissements outre-mer. Donc on s'est inscrit dans cette continuité de service. Nous existons depuis 2007 et aujourd'hui c'est une soixantaine d'employeurs, principalement privés, à partir de 250 salariés jusqu'à plusieurs milliers, qui nous font confiance dans l'accompagnement psychosocial de leur capital humain.
Alors donc, vous nous l'avez dit hein, au début de l'émission, une évidence pour vous compte tenu de votre parcours professionnel, une belle réussite hein, si vous dites qu'aujourd'hui vous êtes quand même plusieurs salariés. Est-ce que puisqu'on est dans la franchise un petit peu, est-ce que votre exemple s'est reproduit ou vous êtes toujours leader enfin dans ce domaine?
Alors, nous avons modernisé un petit peu l'offre. En fait, il existe des opérateurs. On a une concurrence, avec des associations, des sociétés commerciales également. Mais nous sommes les seuls à être agréés ESUS. C'est un agrément préfectoral de la préfecture du Val d'Oise qui, pour moi, a du sens parce que l'engagement est dans nos métiers d'accompagnement. L'engagement, il suffit pas de l'afficher. Il faut qu'il soit aussi manifeste. L'ESS, c'était une manière de garantir à nos clients et aux salariés que nous accompagnons au quotidien que ces valeurs sont respectées. Mmh. C'est aussi une manière différente de voir l'entrepreneuriat. C'est de conjuguer l'impact social et puis la viabilité économique.
C'est ça. Pour vous, c'est vraiment la façon de concilier impact social et rentabilité.
Ça a été l'objet de mon mémoire de fin d'études. Donc c'est quelque chose qui m'a accompagne depuis plus de 20, enfin presque 30 ans maintenant.
Donc vous êtes complètement imprégnée.
C'est ça, complètement. À une époque où on ne parlait pas de RPS, où on parlait beaucoup moins, même si la souffrance au travail, les charges mentales existaient, mais avec moins de digital, il y avait beaucoup moins de prévention. Donc c'est cet impact et ce besoin, et bien effectivement mon parcours d'assistante sociale, toujours en entreprise, me l'a fait sentir très très rapidement.
Et quels sont les enjeux sociaux et sociétaux auxquels vous répondez?
nous accompagnons principalement des salariés qui sont irremplaçables. Quand j'entends irremplaçables, métier de la logistique, du service, du transport, et qui ont de fortes contraintes, des contraintes d'horaire, qui vont travailler en horaire décalé, des contraintes physiques qui font que parfois les démarches pour eux de sortir de l'environnement de leur travail qui est très prenant pour aller avoir accès aux droits, pour se renseigner, pour rencontrer une assistante sociale, pour eux c'est pas possible. Donc c'est extrêmement important d'avoir cet espace-là qui est neutre et éthique au sein même de leur entreprise, de manière à, dans un premier temps, faciliter cet accès aux droits. Notre métier, c'est aussi d'être facilitateur. Il n'y a pas que le marqueur noir. Mmh. Et puis, bien sûr, on rentre ensuite dans l'intimité des problématiques qui peuvent nous être soumises. La sphère personnelle, ça va être la parentalité, les salariés aidants, les personnes qui vont être, on est quand même sur un contexte économique compliqué avec de l'inflation, vous voyez l'automobile, on parle du carburant, hein, ça c'est un impact sur des personnes qui prennent leur véhicule tous les jours pour venir travailler parce qu'ils travaillent en horaire décalé, donc ils n'ont pas d'offre de transport suffisante. Ça va être aussi les violences intrafamiliales, donc on intervient vraiment sur toute la sphère intime du collaborateur quand il est au travail. Et nous avons une éthique et une déontologie particulière, un code de déontologie qui est garanti par notre titre d'assistante sociale et bien sûr le secret professionnel qui n'est pas qu'un devoir de réserve qui est sanctionné dans le cadre du code pénal ou au même titre que le secret médical. Donc ça, c'est une vraie garantie pour nos clients employeurs et puis les collaborateurs qu'on reçoit.
Est-ce qu'il y a un projet ou une action qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, nous avons créé avec une start-up de Seine-et-Marne également travailleurs sociaux notre mini Doctolib. Voilà. Donc en fait, d'un simple téléphone portable, les collaborateurs, eh bien on parlait d'horaires décalés et de contraintes, peuvent à tout moment prendre rendez-vous avec nos professionnels, assistants sociaux ou psychologues, choisir leur mode de rencontre, soit en visio, soit au téléphone, soit en présentiel lorsque les conventions avec l'employeur le permettent, et puis modifier, annuler, bouger. Donc ça a vraiment facilité. L'idée, c'était de rendre encore plus intuitif, plus simple, de rajouter du digital, de la technologie, d'être un peu innovant sans nous couper de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi une problématique qui est la fracture numérique, qui touche un certain public salarié et où les démarches deviennent de plus en plus compliquées pour elles. Donc l'idée, voilà, c'était d'avoir ce nouvel accès, d'optimiser l'accès à nos services pour toujours nous inscrire dans la prévention en entreprise auprès des services de santé au travail et des ressources humaines, mais avec cet accès d'un simple smartphone. Et ça fonctionne plutôt bien.
Béatrice, est-ce que Marie-Wen pourrait compléter vos services ?
Alors oui, il y a forcément des passerelles. Aujourd'hui, nous avons des psychologues du travail qui interviennent soit en téléconsultation de soutien, mais aussi de manière collective sur des ateliers de prévention. Nous parlions de la gestion du stress et puis également en urgence pour des cellules d'écoute, parce qu'en entreprise il existe aussi des situations de crise, et dès que le collectif est impacté, il faut être en capacité d'aider les personnes à gérer ces émotions. Nous avons une sophrologue, voilà, qui est également assistante sociale. Et puis Maïwenn, effectivement, dans sa pratique d'aller vers du mieux-être, peut complètement être intégrée dans une réflexion sur ce type d'offre. Donc d'où l'intérêt que nous avions mutuellement.
Alors Jérôme, je vous pose encore la question, vous cochez toutes les cases, éléments masculins, chef d'entreprise de plusieurs salariés, est-ce que vous pourriez faire appel à Sociobel, ou en tout cas, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire appel à un organisme comme Sociobel?
J'ai jamais eu besoin d'avoir recours ou d'avoir détecté en tout cas le besoin, parce que la réalité aussi, enfin moi j'ai une structure qui est plutôt à taille humaine, hein, on est 8, moi y compris, j'ai quand même une proximité assez forte avec chaque collaborateur, donc peut-être que la structure est moins adaptée, mais c'est vrai que c'est une... En tout cas, on constate
bon de
que
savoir.
Le bien-être, quelque part, psychologique du collaborateur, d'une manière générale, est quand même très important pour la vie de l'entreprise. Mm-hmm. Et encore plus quand on est sur des structures à taille humaine, c'est que on le voit bien, hein, si je vulgarise un petit peu mes propos, l'humeur d'un collaborateur ou son état d'esprit du moment peut influer sur la performance d'une équipe, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est des vraies réflexions à mener, à mon avis, ouais.
Oui, merci Jérôme.
Et Béatrice. En dehors de l'accompagnement purement social, on a aussi dans notre vie de salariés des moments qui peuvent être notre vie, elle est jalonnée. Ça va être aussi le départ en retraite à préparer, la fin de carrière, comment on s'y prépare tant administrativement que psychologiquement que budgétairement. Quand malheureusement on parlait de pathologie, de maladie, on passe en invalidité ou on est déclaré inapte. Le handicap en entreprise, on a aussi des sujets qui vont être très techniques, les inaptitudes au poste, et où là le salarié va être complètement impacté. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur un jeu gagnant-gagnant entre l'accompagnement social, le bien-être du collaborateur, mais aussi la performance de l'entreprise, parce que nos clients sont des grands services RH qui eux n'ont pas ni la compétence ni forcément le temps pour accompagner ces personnes qui en ont besoin. Donc on travaille dans cette bonne intelligence avec les directions d'entreprise.
Et alors avec toute la RSE qui est en plein développement, j'imagine que ça doit aussi être une source d'intervention pour vous.
Alors nous avons la chance d'être très en avance sur les piliers sociétals de la RSE. C'est indispensable bien pour avoir une équipe. L'équipe de Sociopel, c'est une équipe qui est stable, on a beaucoup investi sur la formation, le maintien, le développement des compétences. Par exemple, l'ensemble des assistantes de service social sont formées en premier secours en santé mentale. C'est extrêmement important pour la qualité de service et les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans les entreprises. Et puis nous sommes engagés sur le volet environnemental. Même si nous sommes une entreprise de service, notre impact environnemental n'est pas énorme, mais on a vraiment voulu, en fait on suit et on essaye d'inspirer la chance d'être une PME, c'est d'être réactif, d'être agile. Donc Sociobel en tant que PME est très à l'écoute de tout ce qui peut se mettre en place, de tout ce qui peut impacter favorablement son environnement, son territoire. Nous on est très attaché au territoire de l'agglo Roissy Pays de France. Voilà, mm-hmm. C'est vraiment notre identité. Je suis d'ailleurs ambassadrice pour le territoire, j'en suis très fière. Et bien chaque fois qu'on peut amener un petit peu toutes ces innovations, toutes ces idées et de par ce fait alimenter les engagements RSE de nos clients, eh bien tout le monde y gagne.
Alors, et cependant, c'est une question qui me vient, ça a un coût, votre intervention. Donc, je veux dire ça pour nos auditrices et auditeurs qui n'ont pas forcément une grosse structure, mais qui pourraient avoir besoin de vos services. Est-ce que ça reste abordable?
Ça reste complètement abordable et c'est pas du marketing. Par rapport aux tarifs, en fait, nous fonctionnons comme des consultants. Donc, pour les entreprises, c'est-à-dire que le code du travail oblige les employeurs d'au moins 250 salariés à organiser un service social du travail. Il peut être externalisé. Ça, c'est notre cœur de métier. Maintenant, nous accompagnons des PME, des TPE sur des dossiers individuels. Typiquement, le départ en retraite. Typiquement, le collaborateur fidèle qui a une grosse problématique financière. Donc, nous sommes sur des budgets d'accompagnement ponctuels qui sont de quelques centaines d'euros sur un dossier. D'accord. Donc il y a vraiment rien de déconnant,
entre guillemets. C'est important de le dire,
oui, c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur certains dossiers individuels, même si ce n'est pas notre cœur de métier, mais on aime aussi on est plutôt sur des grands comptes, mais on aime aussi travailler avec des entreprises type ETI.
Très bien. Alors pour vous contacter Béatrice.
Très simple, le site sociobel.fr, notre numéro de téléphone, et puis nous sommes sur LinkedIn, voilà, le réseau professionnel. Donc vous tapez simplement Sociobel et vous aurez accès à toute l'équipe, nos valeurs et nos métiers.
Merci beaucoup pour cet éclairage d'une profession qu'on connaissait pas forcément et qui apporte beaucoup, je pense. Merci.
Merci à vous.
Merci. Allez, on fait une nouvelle pause. Là, on écoute Laurent Vulzi et son Recollection.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Le ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's life and I've been working. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer,
et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient,
et les Beach Boys chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around.
Get around.
Tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait,
et Saint-Malo dormait,
et les radios chantaient,
et les radios chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquaire, c'est dingue, avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient,
et les loulous roulaient,
et les cailloux chantaient,
et les cailloux chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
IDFM, 98FM.
Allez, on entame la dernière ligne droite de l'économie en direct sur IDFM Radio. Et à présent, je donne la parole à Jennifer Terrones, donc fondatrice de Terreau d'entreprise et membre du réseau Entreprendre 95. Alors Jennifer, qu'est-ce que Terreau d'entreprise? Enfin, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais ce concept, c'est vous qui l'avez imaginé?
Oui, c'est moi qui l'ai imaginé effectivement après un parcours, alors non pas atypique, mais effectivement 25 ans de marketing et de communication. J'ai toujours eu la volonté de transmettre dans mon parcours entrepreneurial, comme d'ailleurs quand j'étais salariée avec des équipes. Et puis, je me suis retrouvée entrepreneuse en 2010 sur ma première agence de communication. Et pour des raisons personnelles, ensuite, j'ai cédé cette agence. Et finalement, l'entrepreneuriat a repris le dessus. Et toujours dans, et là pour le coup vraiment dans cette volonté de transmettre mon expérience, mes compétences. Je voulais être un peu le jury de qui veut être mon associé, mais j'avais pas les finances. Donc je me suis dit que c'était pas mal, voilà, de pourquoi pas accompagner des dirigeants dans l'entrepreneuriat, en effet, et avec un angle très développement commercial, finalement.
Alors, on dit souvent, et moi je l'entends très régulièrement dans mon émission, que l'entrepreneur est seul, hein, la tête dans le sac. Je pense que vous êtes tous là pour le confirmer. Donc, le réseau est devenu forcément indispensable.
Oui, clairement. Et puis, au-delà d'être indispensable, je pense que on en entend tous parler. Pardon, excuse-moi. L'isolement de l'entrepreneur de façon générale est complexe. Même quand on a des équipes, on a besoin de pairs pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous entendre aussi, nos questionnements, nos réflexions. C'est aussi pour ça que moi-même j'ai intégré le réseau Entreprendre, parce que j'avais cette volonté à la fois de transmettre, mais aussi la volonté de me sentir moins seule face à mes réflexions d'entrepreneuse. Je n'ai pas un milieu familial qui venait de l'entrepreneuriat. Mon père était ouvrier, ma mère travaillait dans les assurances, et c'est vrai que ça fait un peu peur quand on se lance. Et du coup, cette volonté de pouvoir encore une fois être entendue, écoutée, et puis avec beaucoup de bienveillance et d'empathie, oui, avec les autres entrepreneurs.
C'est important. Oui. Alors, pourquoi précisément le réseau Entreprendre ? Parce qu'il y a plus de 70 réseaux, hein, dans le Val d'Oise. Je le disais encore il y a quelques jours, donc.
C'est vrai.
C'est pas évident de choisir un réseau dans le Val d'Oise.
Oui, c'est ça.
Ailleurs peut-être aussi.
Mais... Non, mais clairement. Alors moi, je suis du Val d'Oise depuis très longtemps, et l'idée d'intégrer un réseau m'avait déjà un peu titillée, mais j'avais effectivement beaucoup de choix, comme vous le disiez, Jacqueline. Initiative, dont on vient de citer, il y a aussi des associations comme ADI, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. La CCI aussi, qui porte pas mal de programmes. Je suis allée vers le réseau Entreprendre parce que j'aimais aussi la démarche de l'employabilité derrière, qui est un truc très important pour moi. De quelque chose qui était déjà créé, qui était en devenir et qui allait se développer, et auquel je pouvais, moi, avec mes compétences en tout cas, apporter pour les lauréats, et m'inscrire dans ce typologie d'association me plaisait bien. Et puis très clairement, on va pas se le cacher, j'ai eu un petit coup de cœur pour Marie France, qui est la directrice du réseau Entreprendre du Val d'Oise.
France Vautier.
Ouais, exactement. Là aussi, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement, et du coup, je me suis lancée il y a un an et j'en suis très contente.
Alors, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous au départ ?
Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez moi ? Je pense que c'est le fait que je sois quelqu'un de très... Alors là, je vais me jeter un peu des fleurs, mais je suis quelqu'un d'assez solaire, en fait, finalement. Et les gens ont besoin, notamment dans leur développement commercial, d'avoir confiance. C'est d'ailleurs ce que je dis dans les premiers temps, quand j'accompagne, c'est que vraiment, il y a le levier de l'envie et le levier de la confiance. Je pense que tout à chacun autour d'ici, on sait très bien que pour séduire à nos prospects, il faut qu'ils puissent avoir confiance en nous. Donc je pense que c'est ça, le fait de pouvoir se reposer sur moi dans l'exercice du développement commercial, de la routine commerciale, qui est quelque chose de très compliqué finalement, très chronophage. Et puis j'ai cette capacité à adorer l'organisation. Vous voyez, je suis de celles qui dans la grande distribution range les conserves quand j'en prends une. Voilà.
Ok. Aujourd'hui, donc vos objectifs à court et à moyen terme, quels sont-ils ?
Bon, l'idée, c'est d'accompagner de plus en plus effectivement d'entrepreneurs, voire de créateurs de projets. Je fais aussi de la sensibilisation à l'entrepreneuriat vers les jeunes porteurs de projets à CY, Entreprendre.
Ah oui. Ah oui.
Donc
très
ouais,
bien.
Tout à fait. Donc du coup,
avec Sandrine Ledu, donc
exactement. Ouais, avec l'équipe de Sandrine Ledu, tout ça m'anime énormément. Donc oui, j'ai envie d'accompagner de plus en plus de personnes dans une démarche qui soit effectivement l'ancrage dans la routine commerciale, qui n'est pas un mot galvaudé. La routine est une bonne chose en fait.
Oui, oui, oui. Il faut se tenir à ce qu'on fait. Et alors, votre actualité, c'est que vous avez lancé un programme d'accompagnement.
Exactement.
Personnalisé,
ouais.
Donc je vous laisse nous
c'est
le
ça.
Décrire.
J'ai lancé un programme il y a quelques jours, effectivement, qui s'appelle Routine de Boss, qui est un programme d'accompagnement sur 90 jours, donc un mois, avec trois phrases stratégiques qui sont effectivement la première phase qui est liée à une méthode qui s'appelle la théorie des contraintes, qui vient de Toyota à l'époque, qui est l'identification du nœud en fait qui fait qu'on n'arrive plus à développer ou qu'on stagne dans notre développement commercial. Ensuite, on va travailler sur une seconde phase effectivement où là on va aller le nom de ma société a toute sa signification ici. On va aller chercher les racines, en fait, de ces blocages. Un peu comme, voilà.
Ah oui, j'ai pas dit que terreau d'entreprise, c'était E2RO de Terroness.
Oui, exactement, c'est ça. Donc, on va aller chercher les racines de ces blocages. Et puis, pour la troisième phase, mettre en action une nouvelle routine commerciale. Finalement, avant l'été, pour que ça puisse, on puisse partir en vacances un peu tranquille. Et puis, reprendre, en septembre, un développement commercial, une structuration d'activité qui soit plus fine et surtout dans la durée.
C'est ça.
C'est important.
Vraiment. Et donc, vous proposez un carnet de boss. Hein,
oui, c'est ça, exactement.
Au fond, c'est un petit peu ce qu'on pratique avec certains psychologues qui faut noter tout ce qu'on fait pour...
Exactement, oui. On met en place un suivi vraiment un peu quotidien finalement de nos activités, de nos points de blocage, de nos envies aussi et du retour du plaisir à la prospection et à la routine. Je vois beaucoup de gens qui ont des problématiques par exemple finalement dans leur développement parce que leur positionnement est difficile en fait. Ils n'arrivent pas à trouver la bonne cible, ou ils avaient la bonne cible mais finalement la cible a changé, les envies de la cible ont changé, le positionnement, le message, et puis ce qui fait leur singularité. Donc c'est vrai qu'à travers le carnet de boss qui va être rendu effectivement juste avant l'été, c'est un petit carnet d'exercice aussi où on travaille un peu tous ces éléments là
Alors, avez-vous un carnet de boss Béatrice, Maïwenn et Jérôme?
Notre carnet de boss, c'est surtout la recommandation de nos clients. On est sur une activité particulière et où le réputationnel est vraiment important.
Ah,
donc, voilà.
Merci Béatrice. Maïwenn?
Plus ou moins, on va dire. Après, moi j'ai une petite boussole. J'essaye, en effet, de toutes les semaines de faire des petits points sur le développement, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'être accompagné et de pouvoir, en tout cas sur les débuts, et de pouvoir être aiguillé et d'avoir un journal de bord, savoir. Et puis surtout pour pouvoir faire des points de ce qu'on a pu mettre. Souvent dans l'entrepreneuriat, ce qui est difficile, c'est qu'on arrive. On est des fois bloqué où on se dit j'ai pas avancé, j'ai pas ci.
On voit tout ce qui va pas.
On a le mur devant nous et en fait finalement quand on regarde le chemin parcouru, on se dit c'est plutôt bien.
Dans le carnet de boss effectivement, voilà. on se donne un moment par semaine pour fêter une réussite en tout cas. On travaille sur la réussite, qu'elle soit effectivement même personnelle ou professionnelle, mais pour que nos objectifs soient plus confortables et qu'on prenne plus de plaisir à tout ça.
Un accompagnement de dirigeant vous prend combien de temps? C'est une mission de combien de temps?
Alors tout dépend effectivement des besoins. Souvent on me dit, parce que je travaille effectivement sur une terminologie qui est le développement commercial ou l'acquisition client ou la prospection, donc on me dit moi je veux développer.
Oui,
très bien. Sauf qu'effectivement, en amont, il faut travailler un peu tous ces enjeux. Donc, ça va prendre effectivement pour certains déblocages un petit mois, le temps de travailler sur 3-4 séances. Et après, sur des transformations, par exemple, des cœurs d'activité, on va être sur des 6 mois d'accompagnement mensuellement.
Ok. pour vous contacter, Jennifer?
Eh ben, écoutez, terreau d'entreprise, oui, c'est ça. terreau d'entreprise.fr, voilà, TE2RO pour le coup, en effet. Et puis, je suis assez active sur LinkedIn aussi, à Jennifer Terrones.
Et si vous aviez un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs?
On parlait de recommandations, Béatrice parlait de recommandations. Moi, je dirais que dans le développement commercial, votre meilleur client et votre meilleur ambassadeur, c'est votre client. Donc demain, la recommandation, ouais, voilà, et la prospection. Mm-hmm. Si vous avez de très bons clients qui vous recommandent très bien, vous avez gagné 80% de votre prospection et de votre développement.
Je pense que vous êtes tous les quatre d'accord sur ce concept, hein, Jérôme.
Je suis complètement en phase avec ce genre de démarche, mais ça m'intéressait vraiment parce que, alors nous, on a mis en place vraiment ce travail par les réseaux, par la recommandation, voilà, et c'est ce qui nous porte dans le développement. Mais comme je suis d'une nature exigeante et peut-être jamais réellement satisfaite, je me dis toujours on devrait prospecter un petit peu, etc. Il y a toujours cette envie de continuer à se développer. Donc c'est peut-être les 20% qui nous manquent chez Courtigo. On n'est pas très actifs là-dessus, mais on fait ce vrai travail de fond de satisfaire nos clients et d'être recommandé et de le faire savoir. Et bon, j'ai quand même une conviction qui rejoint celle-ci.
Qui est forte,
reste
de ce côté-là.
La relation clientèle et la fidélisation des clients, il ne faut pas l'oublier, effectivement.
Mais j'aime bien le concept de la routine. Oui. Moi qui adore le sport en parallèle, je ne crois pas qu'il y ait de sportifs qui performent réellement sans des routines d'entraînement, de récupération ou d'alimentation, enfin des routines sur tout un tas de sujets. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, je ne me vois pas comme quelqu'un d'exemplaire sur la routine, mais je pense que c'est absolument nécessaire.
Oui, même si je pense que souvent on arrive le matin en se disant je vais faire ça, ça, ça et ça, et puis en fait il y a un appel de client et on part dans tous les sens. Donc,
et c'est justement ça que permet la routine, c'est aussi, on a toujours l'impression que c'est très cadré, très figé finalement, et on met en place justement une routine qui permet beaucoup de flexibilité. Par exemple, moi je dis à mes dirigeants que tous les jours il faut se laisser une place pour l'imprévu. Le coup de téléphone, aller chercher les enfants, le côté personnel qui intègre, et effectivement ça permet de respirer aussi.
Merci Jennifer pour tous ces bons conseils et puis un grand merci à vous toutes et tous pour ce témoignage, parcours inspirant et puis engagement au quotidien. Vous nous montrez que l'économie sont avant tout des femmes et des hommes qui osent, innovent et créent du lien. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission, donc je vous avais prévenu, il y a une petite tradition, un mot avant de se quitter. Donc on va repartir dans l'autre sens, Jennifer, je vous donne la parole.
Eh ben, je crois que voilà, le réseau, l'entourage, restez curieux des autres.
Ouais, voilà. Un bon conseil, merci. Merci Jennifer. Béatrice, un mot de conclusion avant de se quitter.
Eh bien, bel exemple, oser, à un moment donné, tous ceux qui sont autour de cette table ont osé aller au bout d'un projet parce qu'ils étaient dans un environnement, peut-être, où il leur manquait des choses. Donc, le sens est oser. Voilà.
Merci Béatrice de Sociovel. Mayouen.
Je rejoins pour le coup aussi Béatrice parce que pour moi, c'est vrai que ça a été... voilà, il faut oser. Il faut des fois aller au-delà de nos croyances et se faire accompagner.
Très bien, merci Mayouen. Jérôme, le mot de la fin.
Merci. C'est la pression. Un grand merci d'avoir été parmi vous ce matin. Et en fait, ça m'inspire tout simplement des nouvelles rencontres à chaque fois. Et typiquement, une des réflexions, c'était est-ce que je peux me permettre en ce moment de consacrer une partie de ce mardi à venir chez IDFM. Et à chaque fois, c'est des beaux échanges, c'est des belles rencontres. Et donc voilà, faudra rattraper le travail en arrivant au bureau. Mais c'est vraiment des beaux moments d'échange, voilà, et qui redonnent de l'énergie, je trouve.
Merci infiniment. Moi, j'ai été ravie de vous accueillir. Et puis, ce que je retiendrai, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour entreprendre, mais une multitude de possibilités à condition d'y croire, de s'adapter et de rester aligné avec ses valeurs. Merci à vous. Merci d'avoir été les invités de l'économie en direct sur IDFM Radio. Et puis, je remercie évidemment nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis, comme à chaque fois. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, Francky, pour la technique. Et si cette émission vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pourrez retrouver son podcast sur idfm98.fr. Et voilà, je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle émission. Mais restez sur notre fréquence, hein, puisque les programmes continuent et voilà, il faut pas louper les autres émissions sur IDFM Radio. Belle journée et bonne semaine.